1941. Nous sommes à Varsovie, au cœur d'une Pologne occupée par l'armée allemande depuis 2 ans déjà. La population souffre cruellement de la faim. Elle ne peut compter que sur des institutions de charité, comme Centos ou le service d'aide sociale de la ville. Une ambulance s'arrête au coin d'une rue, laissant son moteur tourner. Les phares éclairent faiblement la rue, déjà plongée dans la nuit. Au volant, un homme se tourne vers la jeune infirmière qui se trouve à ses côtés. « Si on s'en sort, ce sera mon dernier voyage, chef. J'arrête. C'est devenu trop dangereux. »«
S'il te plaît, Anton, ne nous abandonne pas. »
Anton ne répond pas. Il desserre le frein à main et passe la première qui fait craquer la boîte de vitesse. À l'arrière du véhicule, les cris étouffés d'un enfant qui hurle trahissent sa présence dans une cachette aménagée pour lui. L'ambulance démarre doucement vers un point de contrôle où 2 soldats allemands attendent, mitraillettes au poing. Trente ans plus tôt, Stanislav Krzyzanowski et son épouse Janina sont heureux. Leur petite fille Irena vient de naître. Le père est médecin à l'hôpital du Saint-Esprit de Varsovie. La maman, quant à elle, s'occupe de leur bébé. Irena est leur unique enfant. À l'âge de 2 ans, elle contracte la coqueluche. Cette maladie fait alors beaucoup de victimes chez les enfants. La famille emménage donc rapidement dans la station thermale d'Odvok pour que sa santé s'améliore plus rapidement. Le père d'Irena devient médecin libéral et soigne principalement les pauvres et les paysans juifs, délaissés par ses confrères. Il est très impliqué dans les actions sociales. Il explique très tôt à Irena que les hommes doivent être divisés en 2 catégories. Les bons et les méchants. Leur race, leur religion ou leur nationalité n'ont, dit-il, aucune importance. Odvok est une banlieue ouvrière de Varsovie. Irena y a beaucoup de camarades juifs. Elle apprend rapidement leur langue, le yiddish. Pendant ce temps à Varsovie, la pauvreté fait des ravages. Une épidémie de typhus frappe la population. Le père d'Irena décide donc d'y rejoindre l'équipe d'un hôpital. Il y exerce aux côtés de 4 médecins allemands. Mais aucun d'entre eux n'accepte de soigner les plus pauvres. Stanislav décide de s'occuper d'eux. Quelques temps plus tard, il contracte le typhus. Il meurt le 10 février 1917. Irena aura 7 ans dans 5 jours. En 1920, Janina est veuve depuis 3 ans déjà. Elle décide de déménager avec Irena à Tadjin, à 30 km au sud de Varsovie. Puis à Piotr Głów Trybunalski, où sa famille a vécu. En 1927, Irina a 17 ans. Elle retourne à Varsovie pour débuter des études à la faculté de droit. Elle suit également des cours de philologie à la faculté des sciences humaines. Son besoin d'aider l'incite à se rapprocher de l'orphelinat Don Siero, à Wawer, dans l'arrondissement de Varsovie. Créé par le médecin pédiatre Janusz Korczak, de son vrai nom Henryk Goldschmidt, cet orphelinat est surnommé la République des enfants. Les jeunes résidents y ont autant de droits que les adultes. Un parlement des enfants y élit des députés qui élaborent des lois et les règles de l'établissement. Cet univers novateur et révolutionnaire pour l'époque convient parfaitement à Irena. Mais le climat en Pologne devient extrêmement inquiétant. L'antisémitisme est extrêmement présent, y compris à la faculté. Irena ne le supporte pas. Elle participe à de nombreuses manifestations contre la discrimination à l'encontre des étudiants juifs à l'université de Varsovie. notamment le système des bancs ghettos qui oblige les étudiants juifs à s'asseoir à des places qui leur sont réservées. Décidément, l'histoire nous transporte sans distinction d'époque ou de lieu, dans un univers où se répètent implacablement les mêmes schémas ségrégationnistes. Irena devient alors la cible d'attaque des étudiants du camp national radical. Elle sera suspendue de l'université pendant 3 ans. Elle parvient tout de même à passer ses examens et obtient son diplôme en 1939. Elle a alors 19 ans. Le 1er septembre 1939. À la suite de la signature du pacte germano-soviétique, la Pologne subit l'assaut d'Hitler et son Troisième Reich. Ce sera l'événement déclencheur de la Seconde Guerre mondiale. 2 semaines plus tard, Staline, l'allié soviétique de l'Allemagne, passe également à l'attaque. L'armée polonaise est prise en tenaille. La défaite est rapide et meurtrière. De part et d'autre, on accuse des pertes importantes. Le pays est immédiatement partagé entre les deux assaillants. Mais en 1941, l'Allemagne repousse son ancien allié soviétique jusqu'à Moscou et occupe seule l'ensemble du territoire polonais jusqu'en 1944. Dès les premiers jours de l'occupation allemande, Irena commence à travailler au centre d'aide sociale à la mairie de Varsovie. Elle y organise l'aide aux plus pauvres. Dans la section d'aide à l'enfance, l'écrivain Jan Dobrzyński forme un groupe clandestin. Cette cellule secrète vient en aide aux enfants abandonnés, qui sont de plus en plus nombreux à Varsovie. En novembre 1940, les événements prennent une dimension plus dramatique encore. Les Allemands rassemblent la population juive dans ce qu'on appellera désormais le ghetto de Varsovie. Sous le prétexte de prévenir une possible épidémie de typhus, personne ne peut plus entrer ni sortir du ghetto, en dehors des autorités sanitaires polonaises. Le docteur Julius Majkowski est responsable des autorités sanitaires. Irena, qui l'a fréquenté avant la guerre, lui demande à figurer, ainsi que 10 de ses amis, sur la liste des personnes autorisées à entrer et sortir du ghetto. Irena a ainsi la possibilité de rendre visite à son amie Eva qui s'y trouve. Elle lui apporte ainsi qu'à sa famille de la nourriture qu'elle passe clandestinement. C'est au gré de ses visites à Eva qu'Irena prend conscience du drame qui se noue dans le ghetto. La maladie, la famine, le froid. La mort se répand inlassablement dans les rues surpeuplées. Ainsi, en coopération avec Sentos, une institution de charité pour les orphelins juifs, Irena décide de faire sortir clandestinement des enfants du ghetto. D'abord ceux qu'elle trouve seuls, désœuvrés. Elle les habille avec des vêtements donnés par des familles polonaises. Des amis lui ont indiqué une porte du tribunal, une porte oubliée par les Allemands. Irena s'y glisse plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est la même expédition périlleuse. Les immenses couloirs à traverser. Les pas qui résonnent. Cette petite main serrée au creux de la sienne. Puis, enfin, la sortie. Irena s'arrête enfin. Elle s'accroupit et ajuste le bonnet sur les oreilles de la petite fille qui la regarde, sans comprendre ce qui se joue réellement dans cette course folle. Elle sait qu'elle ne doit pas parler, surtout pas. Elle sait aussi qu'on va la confier à une gentille famille polonaise qui s'occupera d'elle jusqu'à ce que les choses aillent mieux. Tu es très courageuse. Tout va bien se passer. D'autres enfants sont sortis par des souterrains qui mènent du ghetto à la zone libre de Varsovie. Chaque fois, le risque de se faire prendre est immense. Aujourd'hui, un bébé pleure dans la cachette qu'on a aménagée pour lui dans l'ambulance. Anton sait que si la sentinelle allemande lui demande de s'arrêter, ils sont perdus. Il devra baisser sa vitre pour tendre le laisser-passer. Alors les hurlements du bébé trahiront sa présence. Anton ralentit, attendant le signe du soldat allemand. S'il lève sa paume, tout est fini. S'il balance son bras, ils sont sauvés. Cette nuit-là, le soldat balança le bras,
leur indiquant la direction vers la liberté, vers la vie, une autre vie pour un enfant.
Anton a envie de hurler. Il sait à ce moment précis qu'il n'abandonnera pas Irena, qu'il ne laissera pas ses enfants mourir sans rien faire. Mais il faut trouver autre chose, ça devient trop dangereux. Pendant toute l'année 1941, Irena et son groupe font sortir autant d'enfants qu'ils le peuvent. Il ne faut pas perdre de temps. On rivalise d'ingéniosité pour passer les contrôles. Les enfants sont cachés dans une caisse de bois, sous des briques, dans un camion de pompiers. Anton a même trouvé une astuce pour masquer les bruits des plus petits dans l'ambulance. Il emmène un chien pas commode avec lui. Et les jours où le garde demande de baisser la vitre, Anton marche sur la patte du pauvre animal qui hurle plus fort que l'enfant. Le groupe prépare sans relâche des faux papiers pour placer les enfants dans des orphelinats ou des familles d'accueil. Mais en 1942, les nouvelles sont extrêmement inquiétantes. Les Allemands préparent ce qu'ils appellent le grand déplacement. L'envoi massif des Juifs de Varsovie dans les camps. Mais à l'intérieur du ghetto, on refuse de croire à une extermination. C'est impensable. Il s'agit sans doute de camps de travail. Il ne s'agit pas de camps de travail. Des wagons entiers reviennent, chargés de vêtements. Irena doit donc désormais persuader des familles de lui confier leurs enfants, afin de les faire sortir du ghetto au plus vite. Comment imaginer cela? Tout le groupe d'Irena, visitant des familles, leur demandant de faire confiance à une étrangère. « Je peux sauver votre enfant. »« Quelle garantie avons-nous que l'enfant vivra ?»« Aucune. Je ne sais même pas si je pourrais quitter le ghetto avec elle. » Chaque fois, la scène est la même. Le père se tournant vers la mère, désemparé. La mère, la grand-mère, l'enfant, tout le monde pleure. Parfois, ils accepteront de faire confiance aux membres du groupe. Malheureusement, trop souvent, ce ne sera pas le cas. Le 22 juillet 1942, les Allemands commencent à déporter les Juifs au camp d'extermination de Treblinka, à 80 km de Varsovie. Les Juifs du ghetto, femmes, hommes et enfants, sont emmenés vers l'Umschlagplatz, le point de transbordement. Là, des wagons de marchandises sont à quai et les attendent. Les prisonniers sont entassés dans des wagons à marchandises. La grande majorité d'entre eux ne reviendra pas. Deux semaines plus tard, Irena aperçoit près de 200 enfants rassemblés sur l'Umschlagplatz par les soldats SS. Elle reconnaît au milieu d'eux Janusz Korczak. Vous vous souvenez? Le directeur de cet orphelinat, qu'on appelait la République des enfants. Il n'a pas pu laisser les enfants partir seuls. Il tient deux petits par la main. Lui non plus ne reviendra pas. Irena et ses camarades opèrent depuis 3 ans déjà. Le gouvernement polonais est en exil à Londres. Devant l'urgence de la situation, il crée Zegota en septembre 1942. Une commission clandestine d'aide aux Juifs qu'il subventionne. Les fonds ainsi envoyés permettent de continuer l'action. Irena travaillera main dans la main avec Zegota. Pour eux, elle sera Jolanta. En décembre 1942, la commission d'aide aux Juifs nomme Irena chef du département de l'enfance. Elle est alors chargée de rechercher des signes de typhus qui risquent de se propager au-delà du ghetto. Parallèlement, les Allemands étudient de plus près les dépenses du département de l'aide sociale. Une menace plane sur le groupe. Dans le même temps, les Allemands finissent par fermer l'entrée oubliée du tribunal. Le passage clandestin des enfants du ghetto se poursuit malgré tout. Mais les rafles s'enchaînent. De plus en plus d'immeubles sont vidés de leurs occupants. Des quartiers entiers. Dans une ville fantôme. Les voyages successifs de Irena sont de plus en plus dangereux. Les enfants que l'on parvient à sortir sont placés dans des familles chrétiennes et des institutions de Varsovie. Irena travaille désormais en étroite collaboration avec un groupe d'une trentaine de volontaires, principalement des femmes. Les enfants reçoivent de faux noms chrétiens qu'ils doivent apprendre par cœur. Depuis le début de son action en 1940, Irena, alias Yolanta, a pris le soin de noter les noms de chaque enfant qu'elle a sorti clandestinement de l'enfer. Sur chaque petit papier, le nom de naissance de chaque enfant, le nom chrétien qu'on lui a attribué, ainsi que l'endroit où il a été placé. Des centaines de petits papiers, réunis dans des bocaux de verre. Elle cachera ces bocaux sous un pommier, afin de garder une trace de leur réelle identité. Des papiers qui permettront peut-être un jour de les rendre à leur famille. 20 octobre 1943, Irena se prépare pour se rendre à son travail. Depuis longtemps déjà, elle le porte en signe de soutien au peuple juif lorsqu'elle traverse le ghetto. Elle s'apprête à sortir lorsqu'un poing frappe violemment la porte d'entrée.
Gestapo !
Irena sent alors ses jambes se dérober. Son sang se glace. Des coups retentissent à nouveau contre la porte.
Gestapo ! Ouvrez !
Elle ouvre la porte. Des soldats pénètrent dans l'appartement et commencent à fouiller les pièces.
Irina Sandler, suivez-nous.
Deux membres de la Gestapo, la police allemande, encadrent Irena et traversent le grand patio de son immeuble. Elle connaît le sort qui lui sera réservé. Mais dans sa tête, une voix ressasse. Ne leur montre pas que tu as peur. Dans la rue, un soldat ouvre la portière arrière d'une voiture. Irena y monte, entourée des deux membres de la Gestapo. Où m'emmenez-vous ? Personne ne lui répond. La voiture démarre en trombe. Elle ne s'arrêtera que dans la cour de la prison de Paviak. La prison de Paviak. Près de 100 000 femmes et hommes passèrent par cette prison lors de l'occupation allemande. La plupart d'entre eux étaient des résistants polonais, membres de l'armia Krajowa, des prisonniers politiques ou des civils pris comme otages dans les rafles de rue. 100 000 personnes. 37 000 d'entre elles y seront exécutées. 60 000 autres envoyées dans les camps de la mort et les camps de concentration allemands. Pendant plusieurs jours, Irena va être torturée par ses bourreaux. Elle ne donnera aucun nom, aucune information. Pas même lorsqu'ils lui briseront les pieds et les jambes. Elle ne trahira pas son réseau. 3 mois plus tard, elle est condamnée à mort. À Londres, la commission Zegota, en lien avec le réseau d'Irena, font parvenir des fonds pour organiser son évasion. Le jour de son exécution, en février 1944, un gardien de prison corrompu la laisse s'échapper. Ses proches l'exfiltrent aussitôt afin de soigner au mieux ses blessures. Irena, alias Yolanta, restera infirme à vie à cause des tortures infligées lors de son incarcération à la prison de Paviak. Après son évasion, Irena se cache à Varsovie, sous le nom de Klara Dabrowska. Elle doit rester cachée et ne pourra assister aux funérailles de sa mère. Jusqu'à la fin de la guerre et l'arrivée de l'armée russe, Irena continue d'aider partout où elle le peut. Elle crée des maisons de l'enfance pour les orphelins. Elle ouvre des maisons de retraite pour les personnes âgées qui n'ont plus de famille. Mais elle ne parlera à personne de ce qu'elle a fait. Pour elle, cela devait être fait. C'était normal. Février 1945, l'armée allemande a abandonné Varsovie à son ennemi russe. Un homme pousse une jeune femme assise dans un fauteuil roulant. Le froid glacial de Varsovie et la neige rendent difficile leur progression. « Nous y sommes !» dit-elle. « 9 rue Lekarska. Regarde, sous ce pommier, tu vas voir une pierre plate assez large. » L'homme soulève une pierre couverte de mousse. et découvre trois pots de verre recouverts de terre. Il les sort un à un et les essuie avant de les tendre à la jeune femme. Elle s'en saisit, les yeux brouillés de larmes. Non pas par l'émotion de voir ces papiers qui représentaient chacun la vie d'un enfant sauvé, mais parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'en avait pas sauvé assez. Elle dira plus tard « J'aurais pu faire plus. » Ce regret me hantera jusqu'à ma mort. Entre 1939 et 1944, le groupe d'Irena Sandler a pu sauver 2500 enfants. On lui demandera un jour « N'aviez-vous donc pas peur ?» Elle répondra « Ce qui a joué en ma faveur, c'est l'audace. Quand on est jeune, on est audacieux, rebelle. Ses amis dans le ghetto qui mouraient de faim, cela m'a forcé à dominer ma peur. » À la fin de la guerre, Irena ira remettre les pots de verre à Adolf Berman, le président du comité central des Juifs en Pologne. Selon l'historienne américaine Deborah Dvorak, Irena Sandler est l'inspiration et le moteur de tout le réseau qui a sauvé ses 2500 enfants juifs. Environ 400 de ces enfants sont passés clandestinement en tenant la main d'Irena. Irena Sandler dira beaucoup plus tard « J'ai toujours eu une pensée, le jour de la fête des mères, pour toutes ces femmes qui avaient dû abandonner leurs enfants et les confier pour leur éviter la mort. Et une autre, pour toutes ces femmes polonaises qui, au risque de leur vie, ont élevé ces enfants juifs comme s'ils étaient les leurs. » Irena aura trois enfants. En 1983, elle sera invitée en Israël pour recevoir une médaille de juste parmi les nations. Un arbre sera planté au cours de la cérémonie. Il porte son nom. Le Parlement polonais a déclaré l'année 2018 année Irena Sandler. Irena s'éteint en 2008 à Varsovie. Elle est alors âgée de 98 ans. Elle est inhumée au cimetière de Powązki, à 5 rues de l'endroit où elle enterrait ses précieux pots de verre. Si vous avez aimé ce second épisode de Laura, merci de récompenser mon travail en le notant sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi le partager à vos amis sur vos réseaux sociaux. Ainsi, il sera plus visible et donc plus écouté. Vous pouvez également retrouver Laura sur YouTube. En attendant le troisième épisode de cette saison 1 dédiée aux héros du quotidien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve avec plaisir dans deux petites semaines. Prenez soin de vous.